Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Depuis le 1er janvier, pour 6 mois, c'est le Portugal qui a pris la présidence tournante de l'Union européenne, avec un agenda chargé sur le front pandémique, économique, alors que l'Europe se reconfine à grande vitesse et se vaccine au ralenti. Voilà pourquoi nous rejoignons aujourd'hui en duplex de Lisbonne, Augusto Santos Silva, bonjour. Vous êtes le ministre des Affaires étrangères du Portugal.
Bonjour.
Alors avant de faire de la politique, vous avez d'abord été professeur d'université, vous êtes sociologue de formation. Vous adhérez au Parti Socialiste en 1990. En 1999, vous décrochez votre premier portefeuille dans le secteur de l'éducation. Vous avez été aussi ministre de la Culture, des Affaires parlementaires, de la Défense et donc des Affaires étrangères à partir de 2015 dans le gouvernement d'union de la gauche dirigé par António Costa.
Alors, il se trouve que vous prenez la succession d'une présidence allemande qui a été particulièrement efficace sur des dossiers difficiles. Les fonds de relance, le budget européen, le Brexit, la coordination européenne pour l'achat des vaccins. Et vous vouliez mettre, vous, votre présidence, puisque vous êtes un gouvernement socialiste, sous le signe de l'Europe sociale. Et maintenant, quelle est votre priorité des priorités en ces temps difficiles ?
La priorité des priorités, c'est la relance. Et pour faire la relance, il faut améliorer notre réponse sanitaire à la pandémie. Alors, je dirais que c'est la priorité la plus urgente et la plus importante, parce qu'il faut mettre sur le terrain les instruments financiers dont vous avez déjà parlé, le fonds de la relance et le budget pluriannuel. Pour ce faire, il faut accélérer le processus des ratifications nationales des décisions prises par l'Union européenne au cours de 2020. Et puis, il faut accélérer aussi le processus de vaccination de notre population parce que c'est une condition nécessaire pour la relance. Tandis que la pandémie nous frappe avec une intensité si grande, on ne pourra pas faire vraiment la relance de notre économie et de notre société et de nos services publics.
Alors, votre pays, le Portugal, est actuellement très frappé par cette deuxième vague, l'un des pays les plus infectés au monde, alors que vous aviez été épargné par la première vague. Aujourd'hui, les autorités sanitaires reprochent à votre gouvernement d'avoir été trop permissif cet été, pendant les dernières fêtes, pour sauver le tourisme, l'économie. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Est-ce qu'il y a eu une erreur de votre part ?
Non, je crois que la réponse, elle est dans les faits. Et le fait, c'est que le Portugal, dû ses relations très proches avec le Royaume-Uni, est un des pays européens maintenant le plus frappé par la mutation britannique du virus. Et ça explique, ce sont les données de cette semaine, ça explique 30% des cas qui ont été découverts au Portugal les derniers jours. Bientôt, bien sûr, il y a aussi un effet des fêtes de Noël et nous croyons que ces effets, nous réussirons à les dépasser. On a pris la décision de fermer les écoles, toutes les écoles à tous les niveaux pendant une quinzaine pour éviter la contamination du virus. Alors, je crois que janvier va être un mois très difficile, peut-être février sera aussi un mois dur, mais avec la progression de la vaccination et avec les effets des mesures de confinement, on espère que pendant le printemps, les choses se calment et jusqu'à la fin de l'été, on peut vacciner plus de la moitié des Portugais adultes pour que le fait de groupe puisse se produire.
Jeudi soir se tenait à Bruxelles, en visioconférence, un sommet européen sur la lutte coordonnée contre la pandémie. il n'a pas été décidé de tests PCR harmonisés pour voyager entre les pays européens. Pour le moment, l'Allemagne, elle, demande plus. Elle veut l'harmonisation totale des ouvertures de commerce, des mesures de confinement. Alors, vers qui il faut tendre, finalement ?
Je crois qu'il faut une approche rationnelle. Bien sûr, il faut nous coordonner au maximum sur les mesures de confinement, sur les mesures de réponse sanitaire. Alors, nous sommes d'accord qu'une des conditions pour que le marché interne et l'espace Schengen puissent être préservés, c'est la coordination des mesures qui sont en train d'être prises par les différents États membres. En ce qui concerne les mesures de confinement, en ce qui concerne les mesures de restriction sur la circulation des personnes, des gens, il faut être coordonné. C'est là une priorité. Une deuxième priorité, c'est d'accélérer le processus de vaccination. Bien sûr, ce vaccin a été celui qui est le plus vite produit et distribué dans l'histoire de la vaccination universelle. On ne doit pas oublier ça. Et le processus d'achat conjoint de toute l'Europe a été vraiment un game changer, un résultat très important et un fait très important pour l'efficacité de notre vaccination dans tous les États membres. On espère que l'Agence du médicament européenne puisse approuver le nouveau vaccin, celui qui a été développé par l'Université d'Oxford et par AstraZeneca, parce que ça permettra de changer d'échelle.
C'est vrai que les 27 ont choisi de déléguer à la Commission le fait de passer la commande des vaccins, mais on voit aujourd'hui que certains pays font cavalier seul. C'est le cas, par exemple, de la Hongrie qui s'apprête à passer des commandes du vaccin russe, le Sputnik V. Est-ce que c'est vraiment autorisé et quelles sont les conséquences ? Est-ce que encore une fois, l'Europe se retrouve divisée ?
Je crois que les conséquences seront négatives pour la Hongrie elle-même. Nous sommes tous les États membres, du moins 26 sur 27 États membres, nous sommes engagés dans un processus d'achat conjoint et ce processus d'achat conjoint, c'est vraiment important pour nous tous. Et ceux qui essayent de trouver un channel, un parcours, un chemin alternatif au chemin de la coopération européenne, je crois qu'ils ne seront pas gagnants parce que le moyen le plus efficace que nous avons en Europe pour accélérer la vaccination gratuite, universelle de tous les gens, c'est l'effort européen. Et nous savons tous que d'abord, les compagnies...
Mais pour accélérer la vaccination... il faudrait d'abord que la Commission, elle ait commandé suffisamment de vaccins. Là aussi, on dit, est-ce qu'on a commandé assez ? Est-ce que finalement, ça correspond à des commandes de la Commission déficientes, une livraison des industriels trop lente ? Parce que si on veut vraiment protéger 70% des adultes fin août, on n'a pas le rythme qu'il faut partout en Europe.
Mais le problème, c'est pas le nombre des vaccins qui ont été commandés. On a commandé plus d'un milliard de vaccins et nous avons 460 millions de personnes habitant l'Europe. Le problème, c'est que évidemment, on ne produit pas un milliard de vaccins sur l'instant et on n'administre pas un milliard de vaccins sur l'instant. Alors, ça prend du temps. Mais maintenant, ce dont on a besoin, c'est que notre agence européenne approuve formellement, techniquement, les nouveaux vaccins aussi tôt que possible.
Le AstraZeneca, et que les Danois d'ailleurs aimeraient pouvoir commander immédiatement, mais on voit que ça pose aussi des problèmes réglementaires. Alors c'est vrai que cette vaccination, elle suscite des polémiques de tous ordres, et notamment aussi parmi la population. Il y a encore pas mal de défiance à l'égard de ces vaccins parce qu'ils sont totalement nouveaux, des technologies révolutionnaires qui n'ont jamais été utilisées sur des hommes jusqu'à maintenant. La France est en tête des vaccino-sceptiques, avec 46% encore de sceptiques, d'où le succès des infox sur les vaccins. Mathilde Bénezet passe au crible l'une des fausses nouvelles qui circulent le plus sur les réseaux sociaux en Europe.
Bill Gates va-t-il nous implanter des puces 5G avec le vaccin contre la Covid-19? De nombreux internautes accusent le philanthrope américain d'avoir créé ce virus pour prendre le contrôle de la population en injectant des puces de géolocalisation 5G via ses vaccins. Et les célébrités ne semblent pas immunisées contre ces théories complotistes. En mai dernier, l'actrice française Juliette Binoche, suivie par plus de 300 000 abonnés sur Instagram, poste sur son compte.
Ce sont des opérations organisées par des groupes financiers internationaux, principalement américains, depuis longtemps. Ils manipulent, sans être parano. Les vaccins qu'ils préparent en font partie. Mettre une puce sous-cutanée pour tous, c'est non. Non aux opérations de Bill Gates, non à la 5G.
C'est évidemment faux. Cette théorie du complot mélange trois différentes initiatives financées par la Fondation Gates. La recherche d'un vaccin contre la Covid-19, pour laquelle Bill Gates a fait don de 250 millions de dollars depuis le début de la pandémie. Le programme Digital ID 2020, qui vise à offrir aux personnes sans papier une carte d'identité et un carnet de santé numérique. Et des recherches du MIT pour le développement de vaccins injectant une encre dans la peau. Mais ces trois projets n'ont pour l'instant absolument aucun rapport entre eux. Par ailleurs, il est techniquement impossible d'injecter un traceur GPS via un vaccin. Aucune technologie de géolocalisation ne peut fonctionner sans l'aide d'une grosse batterie à recharger régulièrement. À moins de s'accrocher une énorme batterie autour du cou, c'est tout simplement irréalisable.
Augusto Santos Silva, comment lutter contre ces infox? Est-ce que vous avez une proposition à nous faire? Pourquoi pas? Est-ce que les dirigeants européens peut-être pourraient donner l'exemple en se faisant vacciner?
Oui, bien sûr. Et il faut lutter contre ces mensonges avec les instruments typiquement européens, la raison, la science, l'expertise. Pour nous, c'est simple. Les vaccins sont développés dans les laboratoires. Ils sont approuvés par les agences techniques, suivant des critères très exigeants. Et il faut évidemment que les hommes les femmes politiques, mais aussi les médias, s'engagent dans une communication publique stratégique pour montrer que les vaccins sont tout à fait totalement confiables. Et l'exemple, c'est très important sur des questions comme celle-ci.
Alors les Européens, c'est un chapitre diplomatique évidemment qui vous intéresse au plus haut point, ont salué l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche outre-Atlantique, qui ira réintégrer immédiatement l'accord de Paris sur le climat. L'Union européenne veut d'ailleurs lui proposer un nouveau pacte fondateur transatlantique, mais sur le commerce, sur la présence dans l'OTAN. Est-ce que Biden ne va pas marcher un petit peu discrètement dans les pas de Donald Trump?
Je crois pas. L'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche représente aussi une relance, une autre relance, la relance de l'alliance euro-américaine, la relance de la relation très proche entre l'Union européenne et les États-Unis. À ce niveau, l'administration Trump a été l'exception. La règle, c'est un très bon dialogue entre l'Europe et les États-Unis. y inclus sur des thèmes qui sont des thèmes difficiles. Alors, j'espère deux choses. J'espère que les Américains nous rejoignent sur le plan des Nations Unies, sur le plan de l'action climatique, sur le plan du développement soutenable et de la coopération avec les pays en train de développement. Mais j'espère aussi, deuxième chose, que sur les aspects difficiles, dont la taxation des grandes entreprises technologiques numériques et le commerce, où il y a des difficultés, où il y a des divergences entre l'Europe et les États-Unis, ces divergences puissent être adressées d'une façon moins agressive, puissent être adressées par le à travers des négociations et non à travers d'une logique de guerre commerciale, de confrontation qui a été malheureusement la logique du président Trump.
Alors, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, a fait un premier pas. Elle a dit qu'elle était ouverte à ce projet de taxe digitale. Alors, nos amis américains, ils ont envie effectivement de renouer avec l'Europe, mais ils sont très sensibles sur la question de la Chine. Or, les Européens ont signé le 30 décembre, quelques jours avant l'investiture de Joe Biden, un accord d'investissement avec la Chine assez controversé, critiqué par les conseillers de Joe Biden. Et on sait, vous êtes bien placé pour le savoir, que les Américains n'aiment pas trop les investissements chinois en Europe, notamment chez vous. Ils n'ont pas envie que les Chinois investissent, construisent le port de Sines. Alors, quel est le point d'équilibre ?
Bon, d'abord, permettez-moi de dire qu'il y a aussi des fake news sur l'investissement étranger au Portugal. Les Chinois n'ont pas construit le port de Sines. Le port de Sines existe depuis, je crois, une cinquantaine d'années. Il est la propriété de l'État portugais et il est dirigé par une compagnie de Singapour. Maintenant, sur la question de l'accord entre l'Europe et la Chine. C'est un accord de principe, il faut travailler avec du temps, avec la profondeur analytique qui est nécessaire, et la présidence portugaise va le faire avec la Commission et le Parlement européen pour que les choses soient claires. Mais cet accord de principe signifie que la Chine accepte désormais les standards climatiques, les standards en termes de relations du travail et une ouverture du marché chinois aux entreprises européennes. Alors, c'est un accord qui rééquilibre la relation commerciale et d'investissement entre l'Europe et la Chine qui n'était pas équilibrée jusqu'à maintenant.
Monsieur le ministre, sur le plan diplomatique, alors autre grand sujet quand même du moment, l'opposant russe Alexei Navalny a survécu en Allemagne à son empoisonnement. Il est courageusement rentré en Russie, incarcéré. Il est devenu une figure face à Poutine pour l'Europe. Or, cette Union européenne, elle a besoin du gaz russe. Est-elle prête à prendre davantage de sanctions pour favoriser la démocratie russe ?
Nous avons déjà demandé la libération de Monsieur Navalny. On a critiqué son arrêt, son arrivée à Moscou, et nous espérons que les autorités russes comprennent l'importance de respecter les droits fondamentaux de Monsieur Navalny et comprennent aussi la question vraiment politique qui se pose à ce moment, parce que il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit si vous ne respectez pas les droits fondamentaux de l'individu, si vous ne permettez pas que l'opposition puisse s'exprimer. Alors, on entend une réponse russe à nos demandes et nous espérons que cette réponse soit positive.
Augusto Santos Silva, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RFI et France 24. Tout de suite, le rendez-vous avec l'information sur nos ondes ou sur votre petit écran.